Avoir raison avec Fernand Braudel. Une émission d'Emmanuel Laurentin réalisée par Christine Robert.
Une civilisation, c'est un ensemble de biens culturels, les plus immatériels, mais également les plus tangibles ou les plus grossiers. Des façons de croire ou de sentir, des arts de vivre, mais aussi des techniques, des détails vestimentaires, des secrets de cuisine. Justement, c'est des civilisations que je voudrais vous entretenir, sous un aspect d'ailleurs particulier, celui des échanges et des combinaisons que fait naître, sur notre globe, la présence de civilisations très différentes et cependant en contact, attirées l'une vers l'autre en raison même de leurs différences. C'est un fait considérable en soi que toutes les civilisations échangent leurs biens et sans arrêt. Tour à tour, elles empruntent et elles donnent. Les biens culturels ne cessent de se déplacer. Sans leur voyage, d'ailleurs, aucune civilisation ne resplendirait, autant dire ne vivrait.
Quand, en 1948, l'historien Fernand Braudel livre à la radiodiffusion française cette causerie, il a 46 ans et vient de soutenir sa thèse qui sera publiée l'année suivante. En faisant d'un espace géographique, la Méditerranée au temps de Philippe II, le personnage principal de son maître ouvrage, il renverse la perspective et ouvre de nouvelles voies de recherche qui fascinent les jeunes générations. En une quarantaine d'années, Fernand Braudel affermit sa conviction qu'il existe trois temps de l'histoire, le temps géographique, le temps social et le temps des hommes, développe le concept d'économie monde, s'intéresse au programme des lycées et construit un empire interdisciplinaire dont le centre est l'histoire. Mais comment son œuvre nous parle-t-elle encore aujourd'hui? En deuxième partie de cette émission, Anne-Lise Neff, maîtresse de conférence en histoire de l'islam médiéval à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, nous dira ce qu'elle retient des travaux de Fernand Braudel sur la Méditerranée. Mais tout de suite, l'historien Marc Ferraud témoigne de sa longue fréquentation de ce grand maître en histoire.
Quand je l'ai rencontré la première fois à la Sorbonne, donc c'était à la fin de la guerre, c'était Pierre Renouvin qui nous avait dit, quand on préparait l'agrégation, « Je m'occupe de l'Amérique du Nord, c'est au programme, et lui de l'Amérique latine, il est très bon, allez voir. » Alors les copains m'avaient dit, on formait un petit groupe, « Marc, tu y vas ?» Alors j'y étais. Et là, ça a été une bombe intellectuelle qui éclatait pour moi. C'était pas un cours, c'était pas un topo, c'était avec les 6 ou 7 personnes qui étaient là, une sorte de découverte. Alors ils prenaient un livre, et disaient « Voyez le témoignage d'un tel ». Eh bien, il est parti sans sa femme. Vous voyez, celui-là, il est aussi parti sans sa femme. Ça rencontre d'un certain nombre de problèmes. Regardez la courbe des mariages mixtes en Amérique du Sud, etc. Tout était comme ça. Il créait l'histoire en parlant. Et ça, j'avais jamais vu. Et c'était apparemment décousu. Mais en vérité, c'était très construit. Et construire l'histoire, au fond, c'est ce qui l'a différencié de tous les autres historiens qui racontent l'histoire, mais qui ne la crée pas devant vous en expliquant comment ces faits s'enchassent les uns les autres. Alors je suis retourné voir les copains, et je leur ai dit, dites là, il y a un génie, on ne le connaît pas, il arrive d'Amérique du Sud, il faut que vous alliez voir. Alors ils ont été voir, moi avec eux bien sûr. Et alors 2, 3, 4 ans après, eux ils étaient reçus à la grecque, pas moi. Alors l'un a pris l'Atlantique, puisque Braudel avait fait la Méditerranée, l'autre a pris le Pacifique, etc. Le troisième avait pris l'océan Indien, et moi, dans ma petite tête, je m'étais pris la mer Baltique. C'était plus modeste, mais enfin, je me suis dit, comme je connaissais un peu le Danemark, bon. Mais moi comme j'ai jamais été agrégé, c'est Jeannin qui a pris le Danemark. Et depuis, j'aimais pas beaucoup Jeannin. Bref, il ne parlait pas de lui. Mais quand on le connaissait un peu, il racontait quand même des choses assez intéressantes. Par exemple, on sait qu'il a eu cette idée de faire comprendre que tous les événements historiques ne se déroulaient pas à la même vitesse. Alors, on avait écrit un article, par exemple, « Tant d'églises et tant de marchands ». Aujourd'hui, on entend toujours à la radio, à la télé, des journalistes qui disent « le temps de la formation n'est pas le temps de la justice ». Et ça, il l'avait théorisé. Et il nous avait dit, c'est quand j'étais prisonnier que je me suis aperçu que moi, j'étais prisonnier, mais que quand je reviendrai, la France serait toujours là. Donc, il y a des événements courts et il y a des événements longs. Et il faut analyser les événements en fonction de leur durée. Et c'est ça qui donne, en quelque sorte, l'importance historique. Alors, par exemple, quand on parle d'un événement, ben, un événement, au fond, c'est un événement, mais on ne le sait qu'après. Après, on voit s'il a duré ou s'il a disparu. Et ça donne un type de mesure. Ça ne veut pas dire que c'est la seule mesure, mais ça donne déjà une indication sur ce qu'il faut choisir comme trait des changements de l'histoire. Et c'est moi qui lui ai parlé d'Afrique du Nord. D'ailleurs, c'est grâce à cette idée que j'ai eue, enfin, j'ai eu, c'est pas une idée, quand il m'a fait passer un examen parce qu'il cherchait un secrétaire pour les annales, que je lui ai parlé de l'Afrique du Nord. C'était en 60, ou à peu près. Et oui, 48-56 en Algérie, 56-60, c'était par là, vers 60. Et là, on était en plein baroud de tous les côtés. Les opinions étaient extrêmes. Et au fond, peu de gens connaissaient le point de vue indépendantiste, le point de vue moyennement arabe et le point de vue des colons. Alors celui des colons, on le connaissait parce que c'était l'histoire officielle, mais pas vraiment les deux autres. Et moi, je connaissais les deux autres parce que j'avais eu des élèves et les parents, et on jouait au tennis, même avec des Arabes, quoi qu'on dise. Et finalement, j'avais une vue plus harmonieuse de
la société.
La société et son comportement, souvent intolérable. Et quand il m'a demandé « qu'est-ce que tu penses de l'Algérie ?», je lui ai raconté que les colons, d'un côté, ils traitaient très bien leurs employés, mais d'un autre côté, si l'un seul d'entre eux entrait au conseil municipal, le flinguait avec son fusil de la guerre de 14. Ça, c'est une chose. Ça, c'était les colons, hein. Grands ou petits, c'était la même chose. Et les Arabes, ils disaient toujours qu'ils voulaient devenir des citoyens à part entière, mais j'ai très bien vu tout de suite que comme ça ne venait pas, ils souhaitaient l'indépendance ou autre chose d'équivalent. Bon. Donc j'ai pu expliquer ça assez vite. Et une petite voix à côté dit « Ah ben lui, il connaît bien !» C'était Paulette.
Sa femme.
Sa femme. Qui était un peu, comment je dirais, son agent qui repérait les gens, écoutait toujours tout, très gentiment et très intelligemment, puisqu'elle corrigeait ses épreuves, elle travaillait avec lui. Et alors c'est là que, comme sur le reste, je connaissais ce que tout le monde connaît quand on fait de l'histoire, il a dit, bon ben, ça va, vous connaissez ce problème et vous le présentez loyalement. On était au moment où communistes et anticommunistes, communistes et gaullistes, communistes et socialistes, socialistes et catholiques, tout ça, ça se marre. Bon. Et là, sur l'Algérie, j'avais donné une vue, j'allais dire, un peu
nuancée.
Objective, nuancée. Alors il m'a dit, ben, je vous prends.
Pour faire quoi ?
Ben, pour diriger les annales, rien que ça.
La grande revue de fondée par Marc Bloch et par Lucien Febvre.
Je ne m'attendais pas à ce qu'il me propose. Je me doutais qu'il me demanderait peut-être de faire quelque chose, puisqu'il m'invitait. J'avais dirigé les cahiers du monde russe et soviétique. Mais ça ne suffisait pas. Je vous invite. Alors je lui dis, monsieur, je m'excuse, mais je refuse. Il me dit, comment vous refusez ? Alors là, il est devenu furieux. Il avait un visage très expressif. Il est devenu furieux. Il m'a dit, comment vous refusez ? C'était comme un roi qui en refusait un gros, une belle princesse. Il me dit, oui, monsieur, je lui ai dit, je ne peux pas accepter parce que c'est monsieur Renouvin, avec qui, selon ce que je sais, vous n'êtes pas en très bon terme.
Le grand professeur à la Sorbonne, Pierre
Renouvin. Le grand professeur à la Sorbonne. Le doyen, le plus connu, le plus apprécié, c'est lui qui m'a nommé au CNRS, alors que je n'étais pas agrégé. Et si j'acceptais d'aller avec vous, ce ne serait pas loyal. Alors il y a Paulette qui dit, t'entends ce qu'il dit celui-là ? Et c'est là-dessus que j'ai été engagé.
Parce qu'il a apprécié cette...
Ma loyauté.
Cette loyauté.
Et non seulement il l'a apprécié, mais j'étais devenu son guide moral. Quand Jean-Paul Aron, qui était homosexuel, a proposé un article sur les rapports dans l'armée, etc., 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 il n'en voulait pas, et il a dit, non, on ne peut pas, c'est un homosexuel, etc. Je lui ai dit, monsieur, on ne fait pas ça. Il me dit, comment on ne fait pas ça ? Je lui ai dit, non, on ne fait pas ça. Vous êtes censé imaginer une nouvelle histoire, essentiellement fondée sur des raisonnements, des observations expérimentales. Ce n'est pas un jugement comme ça, psychologique, à la va-vite. Bon, ben, t'as raison. Bon, allez, on passe l'article. Voilà. Donc, je jouais ce rôle de, un peu de conseiller moral au début. Rien de plus, parce que j'avais pas la compétence.
De quelle manière organisait-il la recherche?
Ben, il y avait quelques indications. L'histoire qu'il créait à la suite de Marc Bloch, Lucien Febvre, etc., c'est une histoire qui, disait-il, doit être construite, comme on l'a dit tout à l'heure. Bon. Mais alors, ça veut dire que quand on avance une idée, il suffit pas de l'énoncer, il faut le démontrer. Il faut commencer par dire quelles sources on a pris, quelles questions on s'est posées, quelles réponses on s'est données, et il faut que l'histoire soit un raisonnement. Qu'elle ne soit pas simplement la mémoire d'un témoin, de deux témoins, l'un face à l'autre, comme ça. S'il y en a que deux, faut dire il y en a que deux. Il faut légitimer sa manière de raisonner. Et pour ça, l'histoire telle qu'elle existe est insuffisante. Il faut une vraie méthode. Donc il faut s'inspirer des disciplines qui ont une méthode et les annexer et s'en servir. Alors il y a déjà la géographie, un petit peu. Bon, elle est plus fiable parce qu'elle est observée, etc., etc. Il n'y a pas d'idéologie quand on analyse la géographie, enfin à cette époque. Alors d'abord la géographie. Mais il faudrait aussi le droit. Il faut connaître le droit. Il faut connaître l'économie. Il faut connaître, etc.
L'anthropologie, la sociologie.
Etc. Il faut élargir. Et c'était la première instruction qu'il me donnait, élargir. Alors j'ai élargi. J'ai élargi et j'ai élargi de façon un peu insolite puisque ça m'a fait pas mal d'ennemis. Par exemple, j'ai introduit la psychanalyse pour une étude sur Sparte et Athènes comparées par un grand psychanalyste américain qui s'appelait Devreux. Et puis j'ai introduit la linguistique en faisant appel à quelqu'un que vous connaissez qui s'appelait Kristeva. Et puis également Todorov, deux Bulgares. Et puis en imaginant ce qu'on a appelé un numéro spécial, l'histoire non écrite. C'est-à-dire que l'histoire peut se raconter autrement qu'écrite. Alors, à l'époque, dans mon esprit, c'était l'archéologie qui servait de ça, qui permet de donner des dates et une évolution à l'agriculture, à ce qu'on veut. Bon. Et puis après, moi, j'ai imaginé de se servir du cinéma, comme source d'histoire. Donc tout ça, c'était les nouveaux instruments qui multipliaient les systèmes d'approche du problème que je me pose. Alors, bien sûr, il y avait déjà l'économie qui était en place, surtout aux annales, ça on le sait. Et puis il y avait des historiens démographes également. Mais disons qu'il n'y avait pas une systématisation, si je puis dire, de l'élargissement des méthodes. C'est grâce à ça qu'il y a eu une sorte de progrès des résultats historiques qui ont fait que l'école des annales, 10 ans ou 20 ans plus tard, est devenue une école mondiale, en quelque sorte. Bon.
Alors, il y avait des territoires à conquérir, mais il y avait des postes aussi à conquérir. On a l'impression, quand on regarde la figure de Fernand Braudel dans les années 1960 et 1970, qu'il est une sorte de dirigeant, pourrait-on dire, de cette nouvelle histoire, dans la capacité qu'elle a à nommer tel ou tel à tel ou tel poste, à faire en sorte que les préoccupations de cette école historique dont il est le chef soient avancées, qu'elles soient plus fortes, plus affirmées dans le territoire et dans le paysage de l'époque.
Absolument. Il agissait exactement comme un chef d'État. C'est-à-dire qu'il avait, en quelque sorte, autour de lui, un ministre de l'Intérieur qui voyait s'il n'y avait pas quelques mauvais esprits qui, dans l'équipe, commettaient un délit. Un ministre des Rapports étrangères qui était Ruggero Romano et qui allait un peu partout, en Amérique latine surtout, mais ailleurs aussi, pour expliquer quelle serait la nouvelle histoire et pourquoi, etc., 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 etc. Et puis un beau jour, il me dit comme ça, l'Allemagne, on a 6 universités. Une autre fois, il me dit, mais en Amérique du Sud, ça marche pas encore assez bien. Et il avait comme une carte, en quelque sorte, des villes du monde où les chaires d'histoire, c'était des gens des annales. Donc il avait cette vision impérialiste de conquérir, en quelque sorte, de faire triompher une histoire scientifique qui faisait des progrès, mais qui n'avait pas encore cette recherche comme l'objectif numéro un pour que l'histoire ne soit plus un roman ou une mémoire ou une histoire, mais quelque chose qui nous permet de développer nos sociétés. Et c'était ça son objectif. D'où la création de la Maison des sciences de l'homme.
Quelles étaient les écoles qu'il combattait, ou du moins dont il considérait qu'elles étaient moins légitimes que la sienne?
Il y en avait deux. C'était d'abord la Sorbonne, parce que la Sorbonne était fidèle à l'histoire événementielle, c'est-à-dire on raconte une histoire du premier jour au dernier, c'est-à-dire c'est l'histoire traditionnelle, ça, n'est-ce pas? Sans explication, sans enracinement. On part d'hier et on continue jusqu'à demain. Vous voyez, c'est ça l'histoire événementielle. Et qui était souvent politique, donc qui ne puisait pas dans la société. Et ce que faisait essentiellement Sciences Po, deuxième adversaire. Alors Sciences Po et la Sorbonne, c'était différent parce que Sciences Po, c'était essentiellement l'histoire politique qu'il faisait, événementielle. Et elle a changé, elle est devenue une science politique, peu à peu. Mais la science politique, excusez-moi, c'est de l'histoire. Et l'histoire, c'est de la science politique quand elle traite des problèmes de ce genre. Et alors, ça c'est la Sciences Po. Et on a toujours été un peu rivaux. On n'a jamais eu d'article des gens de Sciences Po pendant des années.
Dans les annales.
Dans les annales. Moi, j'avais voulu en mettre un. Ça m'a coûté cher. Il a été rejeté. Il a été rejeté comme ça, par rumeur, parce que ça venait de Sciences Po.
Mais comment faisait-il pour, par ailleurs, continuer son œuvre, son travail, de mener un travail original en même temps qu'il était organisateur de cette recherche autour des annales?
Ben, il n'arrêtait pas de travailler. Il avait toujours la plume à la main. Et quand je dis la plume à la main, c'est une façon de parler, parce que il était très exigeant dans l'écriture. C'est-à-dire que j'ai vu plusieurs fois chez lui ou ailleurs comment il travaillait. Cette feuille, la même page, elle était écrite 10 fois, à la main. Il était très styliste, il voulait que ce soit agréable à lire. Et je me rappelle que la Méditerranée, quand elle est sortie, donc en 47 ou quelque chose comme
49,
ça.
49, je crois.
49, oui. Je me rappelle que c'était un style étincelant, qui aujourd'hui est un peu démodé, il faut dire. Parce que le style, aujourd'hui, c'est pas ce qui fait l'histoire. Mais là, à l'époque, qu'une nouvelle histoire ait du style, c'était pas négatif. Et puis, lui, il avait un don pour les formules très, très novatrices, vous voyez. Et donc, pour ça, il y arrivait en changeant ses pages les unes après les autres. Et c'était toujours la même page qu'on retrouvait en 10 exemplaires, quelquefois, vous voyez. Donc, il travaillait comme ça tout le temps. Et puis, alors, il a élargi son idée de Méditerranée à l'économie mondiale.
Et c'est d'ailleurs ce qui fait son grand succès dans les années 1970, et qui peut-être est au cœur d'un malentendu, parce que on l'a cru marxiste pendant longtemps, puisqu'il s'intéressait aux superstructures, il s'intéressait à la question des mentalités, bien évidemment, comme toute l'école des annales, mais il s'intéressait aussi au poids de l'économie sur les sociétés, et on l'a imaginé marxiste. L'était-il?
Non, il n'était pas marxiste, mais il connaissait bien Marx. Ça, c'est une chose. Ensuite, bien de ses disciples ou de ses collègues plus jeunes étaient finalement marxistes. Pierre Villard, qui était à l'école.
Spécialiste de la Catalogne.
Bon, spécialiste de la Catalogne, et qu'il avait nommé là, il savait que c'était un marxiste, et il l'avait invité. Il y en avait 2, 3, 4 connus comme marxistes qu'il a invité, pour autant qu'on jugeait que leur œuvre était en quelque sorte autonome de toute provocation polémique, ou disons pas polémique, mais disons propagandiste. Dès qu'il y avait un petit vent de propagande dans un texte, hop, on l'écartait. Et c'est pour ça que moi j'ai pu amener bien des communistes à écrire dans les annales, et il n'en a rien dit, parce que c'était des écrits qui étaient insoupçonnables sur certains terrains. Alors peut-être que derrière, ils soupçonnaient quelque chose pour plus tard, mais en fait, il n'y a pas un article qu'on pouvait juger partisan. Alors que les autres revues étaient beaucoup plus myopes sur ce type de problème. Parce qu'à l'époque, on était très vigilants au point de vue idéologique. Il y avait les cocos d'un côté, les chrétiens d'un autre, et quant à De Gaulle, on considérait que c'était un pantin, pour vous dire en gros, pendant 10 ans. Après, ça a changé.
Et donc, il a aussi une écoute aux États-Unis. On va créer plus tard des chaires qui portent son nom. Il a une aura international, Fernand Braudel, dans ces années 1970, parce oui. qu'il est à la fois l'organisateur de la recherche en France, un des organisateurs de la recherche en France, le chef de cette école des annales dont il a hérité de la part de Lucien Febvre, et aussi parce que son œuvre se traduit, se répand dans le monde entier.
Oui et non. Parce que mon sentiment, ou plutôt mes observations, signifie que sa gloire aux États-Unis a été plutôt un rebond. Parce que déjà, il y avait toute une sorte de mise en cause des travaux de Braudel.
Par qui ?
Eh bien, par tous ceux qui jugeaient que ces travaux étaient totalement novateurs. Mais c'était un peu les sciences naturelles de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y avait un catalogue de situations qui montrait la permanence de situations historiques. Alors, pour l'Afrique du Nord, le conflit entre la montagne et la plaine, entre la plaine et la mer, entre ceci et cela. Donc, des permanences qui rendent compte de l'idée d'histoire longue, soit, et même d'histoire immobile. On a pu dire après, le roi Ladurie a parlé d'histoire immobile. Mais cette histoire manquait du souffle de l'histoire. Et moi, je l'ai remarqué de façon tout à fait désagréable. Quand j'ai écrit mon histoire des colonisations, je m'étais dit, dans la Méditerranée, je vais retrouver tout ce qu'il me faut pour alimenter la montée de ceci, les conflits là-bas, ceci, cela, et pas du tout.
Dans la Méditerranée de Braudel, justement.
De Braudel. J'ai relu la Méditerranée de Braudel, elle est encore là, vous la voyez, les trois volumes. Mmh. Et autant, comme lecture, il garde la qualité, etc., autant... comme explication du monde actuel et de ses drames depuis 50 ans, c'est un livre qui est mort. Donc, pour autant que l'histoire était immobile, puisque permanente, puisque constante, puisque longue durée, on pouvait juger que ce type d'histoire n'avait plus la vivacité, voyez, de sa créativité artistique, de sa créativité technique. Parce que le monde changeait, et on voyait que le monde, eh ben, c'était plus la Méditerranée du temps de Braudel. Voilà.
Quelle a été cette opposition que l'on lui a connue face à Lévi-Strauss et face à l'anthropologie, en particulier avec une querelle qui a été assez vive à la fin des années 1950 entre les deux hommes, et qui n'était pas simplement une querelle de personnes, mais qui était une querelle de théorie, Marc Ferraud.
Parce que Lévi-Strauss portait au maximum les implicites de Braudel, d'une certaine façon. Il faisait carrément une histoire immobile, carrément. Il étudiait les civilisations.
L'histoire froide.
L'histoire froide, oui. Mais ils restaient amis et à grande estime l'un pour l'autre. Il n'y a pas eu de conflit personnel, le moins du monde. Au contraire, je crois. Il n'y avait pas du tout ça. Non. On voit la déchéance lente de la première grande œuvre de Braudel et même un peu de la deuxième, c'est-à-dire l'histoire du capitalisme, au nombre de fois où on ne le cite plus dans les annales.
Progressivement. Mais c'est aussi le moment qu'il choisit, et c'est assez original de sa
part,
pour partir, et aussi pour imaginer que le média moderne, qui est à l'époque la télévision, pourra lui servir pour propager certaines de ses idées. Il va accepter, alors qu'il est déjà assez âgé, de faire cette série pour la télévision française et la télévision italienne qui s'appelle La Méditerranée, qui est tirée de son propre travail,
oui.
Et qui est un autre moyen de propager ses idées.
Oui, je ne crois pas qu'il ait vu ça comme ça. Parce qu'à l'époque, je me rappelle très bien que il se trouve que j'avais fait un ou deux films à cette époque.
Pour la télévision française.
Pour la télévision française. Et il avait vu celui que j'avais fait sur la Grande Guerre, notamment, qu'il avait critiqué en jugeant qu'il était formidable mais événementiel, ce qui voulait tout dire pour lui négatif, n'est-ce pas ? Mais ça lui a donné l'idée qu'il se passait quelque chose, là. Et quand on lui a proposé de faire cette série sur la Méditerranée, il a accepté, mais on le poussait un peu. Et je pense qu'il était heureux que ça valorise son œuvre, mais pas l'essentiel de ce qu'il était. C'est qu'il ne l'a pas fait deux fois, par exemple. D'ailleurs, Duby, c'est la même chose. Il a fait une série sur les cathédrales.
Le temps des cathédrales.
Oui, mais il n'a rien fait d'autre après, parce que c'était greffé sur sa manière de travailler sur ce qu'il faisait. C'était pas totalement, comment dirais-je, c'est pas vraiment sorti de lui d'avoir eu envie de le faire. Et il l'a fait bien, normalement, mais c'était pas en histoire. Mais là où il y a eu un début de déchéance de l'œuvre, c'est quand il a fait une histoire de France. Parce que je me rappelle très bien qu'il m'avait dit comment il ferait son histoire de France. Il ferait un chapitre d'abord sur la démographie, puis un chapitre sur l'économie, puis un chapitre sur ceci, un chapitre sur les crises, etc. Autrement dit, c'était les disciplines qui ponctueraient le livre.
Des lectures différentes.
Oui, bien sûr. Des lectures différentes à partir des différentes sciences sociales. Mais autant l'utilisation des sciences sociales pour un problème, ça peut être opératoire, autant on ne peut pas, à partir de la démographie, passer ensuite à la politique ou aux transformations économiques. Et il n'a publié qu'un seul volume, qui n'a aucun rapport avec ce que je viens de vous dire, alors qu'à l'origine, c'était ça son idée. Et ça, ça aurait été très mauvais. Parce que ça devenait une histoire qui n'était plus une histoire vécue. C'était du coup une histoire tellement construite qu'elle était articulée, vous voyez. Alors qu'il avait une très bonne connaissance de l'histoire par en bas. N'est-ce pas?
C'était l'identité de la France, cet ouvrage, le premier volume. Et ensuite, deux autres volumes vont paraître, mais qui sont en fait des sortes de brouillons de l'œuvre à venir.
C'est ça. Mais c'était le premier chapitre, tout ça. Il y avait les autres après. Alors là, ça n'allait plus très très bien, vous voyez. Et c'est pour ça que je pense que beaucoup de gens l'ont un peu lâché. Et que peu à peu, des critiques sont venues, d'Amérique ou d'ailleurs. La théorie de l'instrumentalisation des sciences sociales arrivait à un point limite. Et on aimait mieux des ouvrages plus charnus, vous voyez.
Merci beaucoup, Marc Ferraud.
Arrivarono le navi, tanti navi a Palermo. I piloti sbarcarono, culi facci d'inferno. Na rubare l'usule, arrestavo all'oscuro, che scuro Sicilia chianci. Tutto l'oro all'arancia, liberate a rubare, li campagni spugliaro, cula negli lasciaro. Na rubare lo sole, lo sole, arrestamo allo scuro, che scuro Sicilia chianci. Li colura l'umari, na rubaro che danno, s'impazzuti li bici, che lamento che fanno. Na rubare lo su, arrestamo allo scuro, che scuro Sicilia chianci.
C'est presque une mer plus des terres, c'est une planète à part. Et elle a joué un tel rôle, elle est tellement présente dans toutes les civilisations en bordure de la mer et même au-delà de la mer, que c'était parlé d'un thème, je dirais, connu de tout le monde.
Oui.
Et surtout, surtout, avant tout, songez à la beauté de la Méditerranée.
Fernand Braudel, France Culture, 12 décembre 1978.
Vous voulez me ramener aux civilisations.
Voilà.
Il y a d'un côté le monde de l'Occident et de l'autre le monde de l'Orient. On peut bien dire que ni l'un ni l'autre ne sont simples. Ils sont simples ou ils sont unis, ils sont simplifiés quand il s'agit d'en parler, je dirais, très largement. Alors d'un côté, vous avez la chrétienté, de l'autre, vous avez l'islam, mais au-delà de l'islam, vous avez eu à un moment donné le monde orthodoxe, le monde grec. laissons le monde grec, il y a l'islam d'un côté, la chrétienté de l'autre. Et l'on peut bien dire que leur position ne change pas, ou change très peu. Que brusquement, on voit réapparaître tantôt les effervescences, les fièvres, les explosions de l'une ou de l'autre de ces civilisations. À l'époque actuelle, vous voyez bien quelle place, brusquement, l'islam est en train de reprendre dans l'histoire entière du monde. L'islam qui est en feu, ou du moins qui est en train de travailler sur lui-même, depuis les profondeurs de l'Iran jusqu'à l'océan Atlantique, et qui représente certainement un problème explosif de l'histoire contemporaine.
Culture, avoir raison avec Fernand Braudel par Emmanuel Laurentin.
Alice Neff, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférence à Paris 1 en histoire médiévale et, contrairement à Marc Ferraud qu'on vient d'entendre, eh bien, vous n'avez pas connu Fernand Braudel. Mais néanmoins, vous connaissez très bien son œuvre puisque vous êtes spécialiste de la Méditerranée au temps des musulmans, de la Sicile médiévale, des premiers temps de l'Empire musulman en Méditerranée. Et donc, vous avez beaucoup lu Fernand Braudel. Est-ce que vous pouvez nous dire comment, en tant qu'étudiante déjà, vous avez abordé ce massif gigantesque qui est le massif de l'œuvre de Fernand Braudel?
Alors, je vais être très franche, j'ai l'impression, et c'est un des paradoxes que je vais sans doute souligner par la suite, en tant qu'étudiante, je ne l'ai pas vraiment lu. Mmh. J'en ai beaucoup entendu parler, ça c'est sûr. C'est un des monuments de notre histoire nationale, hein, si je puis dire, de nos historiens nationaux. Mais de fait, ma sensation, c'est que bien souvent, les étudiants ne le lisent pas vraiment, qu'il est cité un peu comme une référence, comme un totem, hein, presque. Et en fait, quand on le lit de près, c'est ce que je me suis amusée à faire, y compris avec des étudiants, le stylo à la main, on voit des choses, évidemment, qu'on n'aurait pas vues autrement. Donc en réalité, je l'ai plutôt découvert dans mon enseignement que lorsque j'étudiais. Enfin, découvert vraiment.
Alors, est-ce qu'on a d'abord un a priori lorsqu'on est une jeune chercheuse, donc une jeune universitaire comme vous, Anne-Lise Neff, est-ce qu'on a un a priori vis-à-vis justement du monument Braudel? Est-ce qu'on le regarde en tournant autour, en se disant par quelle face vais-je grimper sur ce monument?
Effectivement, ce n'est pas une œuvre facile, au sens où si vous prenez n'importe lequel de ses ouvrages et que vous regardez une table des matières, vous n'avez pas l'impression que vous allez immédiatement savoir où vous allez. Bon, ça, c'est un premier point. Par ailleurs, il a énormément écrit, de toute évidence. Donc, il y a, si je puis dire, l'idée d'une sorte d'œuvre touffue à laquelle il faut se confronter. Et puis d'autre part, encore une fois, l'absence d'exégèse, d'une certaine manière, de son œuvre n'aide pas.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas des épigones, des gens qui ont succédé à Braudel, qui se sont mis à nous expliquer Braudel et nous permettre de l'approcher de plus près?
Alors en fait, chacun convie ou le convoque ou l'évoque dans des contextes historiographiques différents qui, quand on regarde son œuvre de près, ne correspondent pas toujours à ce qui est écrit. Alors il est vrai que dans les dernières années, ou plutôt dans la dernière décennie, un certain nombre de personnes se sont mis à faire l'exégèse, notamment de tout ce qui concerne la Méditerranée. Donc, moi, je suis plus spécialiste. C'est le cas notamment d'un certain nombre de géographes, comme Florence de Prest, mais aussi d'historiens, et on peut penser par exemple à Blaise Dufal, mais il y a aussi eu évidemment des biographies écrites de Fernand Braudel, et tout cela a mis un peu de chair et de contradiction autour de quelqu'un qui vraiment est convoqué pour les choses les plus diverses. Alors, ça va de l'histoire globale à l'histoire de la Méditerranée, à l'histoire de la culture matérielle, du capitalisme, bien entendu, enfin chacun, l'histoire de la France aussi, chacun va le convoquer de manière différente, mais souvent assez peu, il faut bien le dire, attentive à mon avis.
Alors, quand vous dites « je suis parti avec mes étudiants sur les chemins de Brodel et j'ai commencé à le lire stylo à la main », qu'est-ce que vous avez découvert en premier dans cette œuvre donc profuse, cette œuvre multiple qui est l'œuvre de Fernand Brodel, Annelise Neff ?
Alors, ce que j'ai découvert, c'est un petit peu ce que décrit aussi Blaise Dufal, c'est-à-dire une écriture très très prolixe, hein, un style que tout le monde connaît comme assez enveloppant, hein, d'une certaine manière, qui emporte, mais qui, d'un point de vue conceptuel, d'un point de vue notionnel, d'un point de vue historiographique, est un peu, je dirais, flou. Ça, c'est la première chose. D'autre part, qu'un certain nombre de grandes idées sont manipulées de grandes notions, mais pas forcément beaucoup explicitées, ou quand elles sont explicitées, un petit peu décevantes. C'est le cas de la notion de civilisation, qui lui est tellement chère, mais c'est le cas aussi de tout ce qu'il met en avant comme fait géographique, hein, déterminant, au sein de la Méditerranée. Et ça aussi, c'est assez frustrant, disons, pour des historiens qui aujourd'hui sont plutôt habitués à déconstruire, en fait, ces notions. C'est d'autant plus frappant qu'il a été vraiment porté au pinacle, hein. On nous parle de la Méditerranée devenue personnage d'histoire, etc. Mais quand on regarde de près, cette Méditerranée devenue personnage d'histoire, elle est pensée, en fait, sur un mode psychologisant, assez rudimentaire,
simple.
Je dirais. Oui, assez simple et pas très, à mon avis, exaltant.
Je vais reprendre vos termes. Flou. Qu'est-ce que le flou chez Brodel pour vous ?
Encore une fois, c'est le fait de ne pas bien définir les notions. Alors, je pense que ça correspond, hein, à une position dans le champ des historiens, mais aussi plus largement des sciences sociales. J'imagine que Marc Ferro a expliqué comment il avait essayé, hein, de construire l'histoire et de porter l'histoire comme une sorte de science sociale globale, mais qui l'amène en fait à totalement évacuer la sociologie, voire même à la combattre, au profit, hein, de l'histoire, de la géographie, qui est extrêmement importante pour lui, et d'une espèce, je dirais, d'une anthropologie, sans être méchante, à la petite semaine.
C'est quand même méchant de dire anthropologie à la petite semaine.
Mais au moment même où Lévi-Strauss écrivait, enfin, c'est ça que je veux dire par la petite semaine, c'était pas tout à fait l'équivalent. Et donc, de fait, hein, là aussi, un positionnement, disons, épistémologique qui n'est pas excessivement clair.
Alors, vous dites les faits géographiques sont déterminants pour lui. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que le désert est un désert, la Méditerranée est une mer, les espaces forestiers sont des espaces forestiers. Enfin, quelle est justement pour lui l'importance de la géographie ? Vous dites d'ailleurs souvent, Annelise Neff, que c'est presque autant un géographe qu'un historien, Fernand Brodel.
Absolument. Il faut se rappeler, hein, qu'il a, il a fait ses études à une époque où, par exemple, il n'y avait pas d'agrégation de géographie. Il a passé celle d'histoire géographie, mais ça correspondait aussi à
dans les années 20.
À un moment. Tout à fait. Alors là, je reprends, hein, aussi ce qu'a écrit Florence Deprest. Elle a bien montré qu'en fait, il utilise des géographes. Il a une pensée géographique dans les années 20-30, qui est en fait une pensée géographique qui, déjà pour l'époque, n'est pas très novatrice. Il va reprendre des gens comme Vidal de la Blache sur les genres de vie. Il va reprendre des gens comme, alors, autour de l'Algérie, de la Méditerranée, de l'islam, Émile Félix Gautier, hein, qui a été très important, qui est mort en 1940 et qui est un spécialiste en particulier de l'Afrique du Nord, comme on disait à l'époque. Donc il reprend à des idées assez simplistes qui, à mon sens, qui consistent à dire que, effectivement, ce qui compte, c'est l'espace. Chaque civilisation a un espace de prédilection. Alors ça donne, par exemple, pour donner un exemple concret, la Méditerranée ne peut pas être un espace où la civilisation islamique ou la civilisation musulmane, il dirait, lui, se développerait, puisque, ou alors si elle le fait, c'est comme une parenthèse, puisque c'est une civilisation du désert, et que son lieu de prédilection, c'est le désert. Donc l'islam est une contre-méditerranée. Ce qui, à l'évidence, quand on regarde l'évolution historique, et quand on regarde, y compris des développements récents de l'historiographie, je pense à la mère des califes de Christophe Picard, par exemple, on voit bien que l'investissement de la Méditerranée, pas seulement de la Méditerranée, mais de l'océan Indien, etc., enfin, des mers en général, a été extrêmement forte de la part des différents pouvoirs islamiques et évidemment des marins arabo-musulmans. Donc de toute évidence, c'est une sorte de contre-vérité. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été sensible à cet aspect. Il a été en particulier assez proche de Maurice Lombard, mais il n'en a rien fait d'une certaine manière. Il s'est intéressé aussi à Shlomo Goitein, mais il est resté très en deçà de ce qu'il aurait pu en faire.
Alors, peut-être aussi, il faut rappeler son âge, c'est-à-dire que lorsqu'il dirige et crée à la fois, il dirige les Annales, la revue des Annales, comme nous l'a expliqué Marc Ferraud, mais aussi crée la sixième section de l'École pratique des hautes études, il est déjà assez avancé en âge, et donc à partir de ce moment-là, effectivement, il est l'homme de son époque, peut-être, quand il écrit dans les années 1960 ou 70 sur ces questions-là, ou quand il réalise la grande série Méditerranée pour la RAI et pour France 3 à l'époque, ou FR 3.
Alors, c'est vrai, mais en même temps, moi je me plais souvent à le comparer à quelqu'un qui est quasiment son contemporain. Qui est Shlomo Goitein. Donc, qui a vécu de 1900 à 1985. Hein, donc, si on prend Brodel, c'est 1902-1985, c'est quasiment... voilà. Alors, Shlomo Goitein est en fait quelqu'un qui est parti relativement tôt d'Allemagne en Israël, hein, avant la Seconde Guerre mondiale, et qui a participé en fait à la création d'une université israélienne. Il a d'abord travaillé en fait sur les sources islamiques. Il était spécialiste en fait de l'histoire du monde musulman médiéval. Et puis, un peu par hasard, il a découvert les documents de la Géniza, qui sont ces documents découverts à la fin du 19e siècle au Caire. Et qui sont, en fait, pour faire vite, hein, une sorte de poubelle documentaire où on mettait des documents qui ne servaient plus. Alors ça pouvait être des pages de manuscrits, des lettres commerciales, etc. À côté, comme annexe d'une synagogue, donc il s'agit d'écrits qui avaient soit été rédigés par des juifs ou pour des juifs, dans un contexte islamique. Et là-dedans, on a trouvé énormément de lettres commerciales qui ont été exploitées par Shlomo Goitein et qui documentent en gros, surtout, la période du 10e au 12e siècle. Mais c'est réellement des milliers, des dizaines de milliers de documents. Et Shlomo Goitein, il l'a découvert tard. Il l'a découvert en 56, les documents de la Géniza. Donc on est, il était déjà lui aussi avancé en âge. Et il va se passionner pour cette histoire et il va écrire jusqu'à la fin de sa vie une série d'ouvrages, un grand œuvre qui s'appelle A Mediterranean Society, donc une société méditerranéenne. Donc on pourrait dire c'est comme le pendant de Fernand Braudel d'une certaine manière. Et sa conception en fait de la Méditerranée est totalement différente.
C'est-à-dire ?
Alors c'est vrai que l'un est moderniste et voit donc, si je puis dire, la Méditerranée à l'aune de l'affirmation de l'Occident, on va le dire un peu comme ça, alors que Shlomo Goitein, lui, insiste en fait sur une Méditerranée islamique, à l'intérieur de laquelle il voit les Juifs comme extrêmement acérés, hein, il insiste là-dessus, sur la communauté de loi en particulier. Alors que Fernand Braudel, c'est le moins qu'on puisse dire, n'a pas le même point de vue, puisque sa conception, en fait, hein, d'un monde partagé entre civilisations, s'appuyant sur des religions, etc., l'amène à considérer que les Juifs forment une civilisation à part. Ce qu'on oublie bien souvent, et il a des pages assez étonnantes sur ce point.
Alors, vous avez évoqué ce terme de civilisation, Anne-Lise Neff, qui est très important dans la pensée de Fernand Braudel. Qu'en fait-il et surtout comment détermine-t-il ce qu'est, à ses yeux, une civilisation ?
Alors là aussi, c'est assez étonnant parce que, par exemple, il dit à plusieurs reprises que la religion est au cœur de la civilisation, mais on ne peut pas dire qu'il accorde à la religion, dans ses pages, tant d'importance que ça. Mais c'est comme le noyau dur. D'une certaine manière. Et ça, déjà, évidemment, ça ne va pas sans poser quelques problèmes. Mais dans le même temps, il met en avant, en fait, là encore, ça renvoie à la géographie, hein, des modes de vie, des rapports au milieu qui sont, là aussi, extrêmement déterminants. Ce qui l'amène à voir, par exemple, l'islam comme le prolongement de l'Orient ancien plus la religion musulmane, d'une certaine manière. Donc, il décrit la prosternation, la manière de s'habiller, etc., des musulmans, comme renvoyant à la Perse ancienne, par exemple. D'autre part, il les voit comme des constructions, alors il parle de civilisations comme de personnages hein, qui ont une vie. Donc il y a des civilisations enfants, adultes, vieillissantes, que sais-je. Et ce qui fait leur force, dit-il, c'est à la fois leur capacité à échanger, mais aussi à refuser les éléments qui viennent d'autres civilisations. Et il a des pages assez étonnantes sur le fait que, par exemple, la civilisation byzantine aurait disparu parce qu'elle n'aurait pas été capable, en quelque sorte, hein, d'avoir une conception de la guerre sainte.
Ah oui.
Ce qui est assez surprenant. C'est-à-dire que vraiment, il écrit aussi sur la haine qui anime et qui oppose les civilisations et qui, d'une certaine manière, les font durer dans le temps.
Alors, comment peut-on expliquer cette vision et comment peut-on expliquer, vu d'aujourd'hui, Anne Lizneff, qu'il ait été aussi défendu, homme de son époque, on l'a dit, grand organisateur de la recherche en France, il était aussi défendu, et surtout que cette notion-là, peut-être parce qu'on ne le lit pas, après tout, on peut se référer à lui sans jamais l'avoir lu ou en l'ayant lu très rapidement. Comment se fait-il justement qu'on n'ait pas vu tout ce que vous êtes en train de pointer dans cette œuvre de Fernand Braudel, qui tenait peut-être à une vision très, disons, fixiste et assez déterministe de l'histoire, des civilisations, de leur vie et de leur mort?
Je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, je crois qu'il faut pas nier que ça tient en partie à sa position institutionnelle. Je pense qu'au moins de son vivant, il ne faisait pas bon s'opposer à Fernand Braudel, et aussi parce qu'il a su soutenir des gens qui ne pensaient pas forcément comme lui.
Hein. Ça, c'est tout à fait, c'est ce que nous expliquait tout à l'heure Marc Ferraud. Effectivement, il avait la possibilité d'avoir des gens qui, dans son entourage, n'étaient pas du tout proches de lui par certaines de leurs idées, mais qui néanmoins, il considérait qu'il fallait les pousser pour qu'ils aient des postes, qu'ils deviennent des chercheurs confirmés.
Et ça a été son intelligence hein, de ce point de vue, et on comprend que mordre la main qui, en quelque sorte, vous a poussé ne soit pas forcément quelque chose qui soit très apprécié. Après, je pense qu'il a été utilisé également précisément parce qu'il représentait de manière très large, et y compris pour pas mal de nos concitoyens, un grand
le grand historien,
la figure du grand historien. Français, alors que même, on pourrait penser, je ne sais pas, à Jacques Le Goff, qui a pourtant beaucoup plus écrit, hein, d'une certaine manière, et des choses beaucoup plus, qui est bien connue, évidemment, mais qui n'a jamais atteint cette envergure, je dirais, outre le monde académique. Et je crois que là, il y a un peu une affaire d'opportunisme, c'est-à-dire que quand on a un drapeau, eh bien, ma foi, on le porte en avant. Alors ça, c'est sûr. Et puis je pense par ailleurs qu'effectivement, la lecture attentive de son œuvre n'est plus faite depuis longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, il sert en quelque sorte à justifier un certain nombre de prises de position simplement parce qu'on le cite. Alors c'est très clair pour l'histoire globale, hein, qui n'a pas eu vraiment le vent en poupe en France. Dire que l'histoire globale a été lancée par Fernand Braudel, ce qui, à mon avis, est une erreur manifeste, c'est une manière de dire je me mets dans le prolongement, en quelque sorte, d'un grand homme et de notre et d'une écriture qui remonte à bien plus tôt que le moment où on promeut l'histoire globale. Donc on s'insère dans une tradition pour faire du nouveau. C'est un classique absolu.
Et puis, il y a aussi tout de même, chez Fernand Braudel, un style que vous critiquiez tout à l'heure, mais qui est un style tout de même qui, pour des non-lecteurs habituels d'histoire, est un style qui parle. D'ailleurs, il écrit comme il parle, dites-vous, parfois, Anne Lizneff, il a une écriture très ciselée, très stylée, pourrait-on dire, qui permet peut-être aussi par des images de faire approcher des idées sur l'histoire et sur le passé à des personnes qui n'en auraient pas eu l'occasion auparavant, par exemple. Parce que on sait que c'est nourri par un travail sérieux derrière, mais il y a aussi cette capacité à en parler ou à l'écrire très différente de beaucoup d'historiens ou d'historiennes, non ?
Alors, il n'y a aucun doute, hein, c'est ce dont je parlais au début, de ce style enveloppant, hein, la phrase longue, effectivement, agréable à lire, il n'y a pas de, si on ne prête pas plus attention au sens, et il est vrai que peut-être, à l'inverse, un certain nombre d'historiens ont trop négligé cette dimension. Par ailleurs, je pense malgré tout que sa pensée a probablement été, enfin, c'est aussi son intelligence, hein, d'avoir été consonant à un moment de l'histoire, tout simplement. C'est-à-dire que les idées qu'il avance étaient dans l'air du temps. Et on rencontrait en quelque sorte un public. Si vous parlez, mais même jusqu'à aujourd'hui, on a beau avoir déconstruit la notion de civilisation, notamment en critiquant Huntington et son clash des civilisations, malgré tout, on la voit revenir par d'autres. Alors ça va s'appeler culture, mais c'est bien de cela qu'il s'agit toujours. Les gens sont persuadés que des cultures immémorielles ont duré dans le temps.
Et qu'elles s'affrontent.
Et qu'elles s'affrontent, bien entendu.
Est-ce que c'est un hasard si les critiques dont vous faites partie de l'œuvre de Fernand Braudel, Anne Lisneff, viennent beaucoup de chercheurs qui travaillent sur le monde musulman et sur le monde islamique ?
Non, ça n'est pas un hasard. Ça n'est pas un hasard parce qu'il faut bien constater que, et là je vais élargir un peu, parce qu'il n'y a quand même pas que Fernand Braudel qui pêche par là. Si on met de côté un Goethein, Fernand Braudel, qui a été beaucoup critiqué dans un livre récent qui s'appelle « The Corrupting Sea », enfin récent, qui a 20 ans maintenant, mais qui est paru en 2000 en anglais, et qui était consacré à la Méditerranée, qui était beaucoup critiqué dans ce livre. Si vous regardez cet ouvrage, qui est une grosse somme sur la Méditerranée, qui tente à montrer qu'en fait l'idée d'une unité méditerranéenne doit être critiquée au profit de micro-régions méditerranéennes, etc., etc. Cet ouvrage, en fait, évacue totalement l'islam. Cite Goethein parmi les grandes références sur l'histoire de la Méditerranée, mais n'en dit pas un mot. Donc là, il y a aussi une question, je dirais, de formation académique, c'est-à-dire que l'histoire des mondes musulmans reste un peu en marge, en fait, n'est pas intégrée au discours général. Et oui, du coup, il est vrai que ceux qui portent un regard un peu critique se situent dans cette marge.
Vous êtes vous-même chercheuse et spécialiste de la Sicile médiévale, et en particulier de la Sicile donc musulmane. Qu'est-ce que, dans vos travaux, vous voyez qui vient percuter, pourrait-on dire, les notions telles que vous les avez décrites, qui sont mises en place dans la Méditerranée de Braudel, par exemple?
Alors, par exemple, l'histoire de la Sicile oblige à penser le changement social, puisqu'on a une domination byzantine, puis une domination islamique qui dure en gros deux siècles, puis une domination normande hein, à partir du XIIe siècle. Donc on aurait l'impression hein, de Byzance, islam, monde latin se succèdent en Sicile. La question c'est du coup si il s'agit de civilisations différentes, qu'est-ce qu'on fait de cette histoire ? Alors soit on pense, et c'est ce que dit Braudel sur un certain nombre de points, par exemple quand il évoque les Bulgares, que vous avez une sorte de d'âme, hein,
une âme des
qui,
peuples,
voilà, sicilienne qui résiste en quelque sorte et qui est indifférente à cette succession de domination, ou bien vous pensez que le changement social existe et qu'en fait la Sicile a fait partie de ces trois ensembles politiques et culturels et qu'elle en a tiré à chaque fois un certain nombre d'éléments, mais aussi que un certain nombre d'autres éléments, en passant à une autre domination, ont disparu. Et que c'est ça qu'on appelle en fait l'histoire.
Et vous montrez donc une Sicile plus complexe que ce qu'on pouvait l'imaginer par votre propre travail, Anne Lisneff, et en cela, vous rompez avec cette idée de civilisation immémoriale ou en combat, puisqu'il y a là un espace géographique, la Sicile, bien déterminé, qui vient nier, d'une certaine façon, dans sa succession de dominations que vous avez décrite, eh bien, vient nier les idées de Fernand Braudel.
Tout à fait, c'est-à-dire que le déterminisme géographique ici n'a pas sa place. Et même l'idée d'une culture insulaire a été évidemment tout à fait dépassée par une série d'études. La Sicile a été rattachée tantôt à sa rive sud, tantôt à sa rive nord, tantôt d'ailleurs aux deux, quand il y avait des ensembles qui débordaient sur les deux. Et donc le déterminisme géographique est ainsi battu en brèche, mais aussi l'idée d'une espèce d'isolement qui tiendrait à son insularité. Donc on voit bien ici comment on peut remettre en question un certain nombre d'éléments.
Alors vous avez beaucoup passé de temps, et c'était pour ça que nous avions demandé de venir, pour critiquer cette œuvre de Brodel. Qu'est-ce qu'il en reste néanmoins que vous pourriez, ou que vous conseillez peut-être même à vos étudiants? Est-ce qu'il y a des choses qui, à l'intérieur de cette œuvre gigantesque, profuse, font encore sens pour un jeune étudiant ou une jeune étudiante en histoire aujourd'hui? Ou est-ce qu'au contraire, il faut le ranger comme des historiens du 19e siècle, Augustin Thierry, Jules Michelet ou d'autres, parmi le rayon des historiens qui sont à lire pour peut-être le plaisir de la lecture, mais qui doivent être lus le stylo à la main, comme vous l'avez dit, dès qu'il s'agit de faire de l'histoire du temps présent, tel qu'on l'a fait aujourd'hui?
Alors je dirais qu'effectivement, pour de jeunes historiens d'aujourd'hui, Fernand Brodel, à mes yeux, doit avoir essentiellement un rôle, c'est d'inviter à une réflexivité renforcé. Et de ce point de vue, il ne s'agit pas évidemment de ne pas le lire, mais de réfléchir au fond sur la production de cette histoire et sur ses limites, bien entendu. Alors, il peut être plus agréable de le lire lui, je le répète, que d'autres. Et ça, c'est l'aspect, et c'est aussi ce que j'ai vu avec mes étudiants, c'est qu'au fond, ils ne rechignaient pas à lire un chapitre de Brodel chaque semaine, sans aucun doute. Mais oui, je serais plutôt pour dire qu'il nous aide dans notre réflexivité plutôt que dans notre connaissance de la Méditerranée.
Et quand vous dites il nous aide dans notre réflexivité, c'est une façon de dire il nous permet de réfléchir à la fois à la vie et aux morts d'une œuvre d'historien, à sa courte durée parfois, parce que effectivement la recherche avance et échange, et d'une certaine façon il permet de savoir que eh bien on peut produire quelque chose qui est bon pour son époque, bon à lire et bon à vivre au moment où on l'écrit, et puis peut-être 20 ans, 30 ans, 50 ans plus tard, qui a la vertu d'un vieux grimoire que l'on va regarder. Il y a un peu de poussière dessus, ça peut intéresser, mais pas beaucoup plus que cela.
Alors, j'irai un peu plus loin quand même. Moi, je pense que même à l'époque à laquelle il écrivait, il y avait quand même des historiens plus intéressants. Et notamment, je vais être... Marc Bloch et son approche sociologique de l'histoire étaient tout à fait en avance sur son temps, enfin dans le prolongement de ce qui se passait depuis le début du XXe siècle. Et d'une certaine manière, Brodel a été, de ce point de vue, une sorte de retour en arrière. Donc, il était bon à lire à son époque, mais il était déjà bon, à mon avis, à critiquer à son époque.
Merci beaucoup, Anne Lizneff, d'être venue lire et expliquer pourquoi Fernand Brodel était un historien important à un moment donné et pourquoi peut-être il l'est moins aujourd'hui dans cette émission qui s'appelait « Avoir raison avec ». Alors, avoir raison et peut-être avoir tort avec Fernand Brodel, c'était le thème de cette émission. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Avoir raison avec Fernand Brodel, prise de son Yves Lohors et Jacques Hubert, une émission d'Emmanuel Laurentin réalisée par Christine Robert.